enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous avons donc commencé notre message sur le développement. Et nous avons vu beaucoup d'aspects par rapport au développement. Pour être développé, nous avons besoin d'avoir un espace de développement. Comme aujourd'hui, pour tenir notre culte de gospel, nous avons eu besoin d'espace et nous sommes dans cette salle, nous sommes venus louer cette salle pour avoir un espace pour exprimer ce que nous avons au fond de nous comme louange, comme adoration. Et nous avons dit qu'il nous faut aussi le temps. C'est vrai qu'il faut le temps pour faire les choses, surtout pour réussir les choses. Et nous avons vu que l'Église avait pour vocation de se développer. Que Jésus n'avait pas laissé une église développée, il a laissé un concept développé, il a laissé une parole développée et il a lancé ses disciples sur cette perspective. C'est-à-dire que les portes de l'enfer ne doivent pas prévaloir sur l'église, que les apôtres devaient développer en faisant de toutes les nations des disciples. Et nous avons compris, nous tous, que l'église doit se développer. Si l'église doit convertir toutes les nations, cela veut dire qu'elle doit se développer parce que les nations se développent. Si l'Église reste archaïque, l'Église ne peut pas communiquer, l'Église ne peut pas dominer, l'Église ne peut pas convaincre qui que ce soit. C'est alors que nous avons décidé de renoncer à notre évangile, celui que le nôtre, pas celui de Jésus, mais le nôtre, où nous faisons fi de sa parole, nous faisons fi des paraboles qu'il a données pour être dans la confusion, pour être dans un évangile où on se croise les bras. Pour être dans un évangile où on n'est pas éclairé et où nous commettons beaucoup d'erreurs et nous nous affaiblissons jour après jour et nous sommes incapables de manifester l'évangile comme une bonne nouvelle au milieu de notre génération. Et pour cela, nous avons compris que l'Église se développe par le développement des croyants. Si les croyants sont développés, l'Église se développe. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est le rassemblement des croyants. Donc, si l'Église rassemble des croyants sous-développés, nous aurons une Église sous-développée. Mais si maintenant notre Assemblée, par exemple, rassemble des personnes développées, aussitôt le développement va se manifester. Et maintenant, nous avons pu comprendre, en examinant le sous-développement, que cela était donc une punition de Dieu qui a précipité l'homme dans le sous-développement du fait de sa désobéissance. Le sous-développement étant l'inadéquation entre ce qui nous entoure et ce que nous ressentons comme étant bien. Nous avons vu donc le perfectionnement des croyants. Nous avons dit que chaque croyant doit se perfectionner. Et pourquoi nous devons nous perfectionner? Parce que Dieu nous a donné des talents, des dons et aussi des ministères. Et ces choses nécessitent que nous puissions les développer. Et c'est nous qui en sommes gestionnaires. Et le Seigneur insiste sur le fait de rendre compte de ce que nous avons reçu. Parce que le Seigneur ne travaille pas en vain. Il ne nous a pas équipés de ces choses tout simplement pour le fun, comme on dit. Mais c'est pour que nous puissions prévaloir sur les manœuvres du diable. Pour que nous puissions prévaloir sur les temps et les circonstances défavorables à la manifestation du témoignage de Jésus-Christ sur la terre. Donc chacun de nous devait prendre conscience, qu'est-ce que j'ai reçu? Et ce que tu as reçu, tu dois le développer. Même si le contexte est difficile, même si les temps sont difficiles, mais tu dois te focaliser sur ce que tu as reçu qui doit être développé et que tu rendras compte au Seigneur, comme nous pouvons le lire au travers des paraboles, des talents et des mines, où le Seigneur a demandé des comptes à ceux qui avaient reçu. Certains ont produit le double de ce qu'ils avaient reçu, mais un autre a gardé dans l'impuissance ce qu'il avait reçu et s'est retrouvé en difficulté, chassé loin de la gloire de son Dieu, parce qu'il ne s'est pas battu pour pouvoir rendre à Dieu ce qu'il lui avait donné. Au travers de tout cela, nous comprenons que notre état de sous-développement n'est pas la volonté de Dieu. Nous comprenons aussi que notre état de pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Dieu est le Dieu de la bénédiction et il veut bénir son peuple. Et il nous a clairement dit que si nous abandonnons notre vie d'avant, c'est-à-dire lorsque nous étions païens, si nous abandonnons la vie que nos parents nous ont appris, la façon de penser, la façon de réagir, alors au nom de Jésus, nous allons recevoir des pères, des mères, des filles, des sœurs, des maisons, des biens, des terres, mais aussi des tribulations. Mais lorsque nous regardons dans notre vie, nous avons vu plus de tribulations que des maisons, que des terres, que des mères, que des filles, que des sœurs. Toutes ces choses que Jésus a énumérées d'une façon précise, afin que nous puissions comprendre ce qu'il appelle recevoir la vie en abondance. Si maintenant nous rejetons la séduction, si maintenant nous rejetons la confusion, si maintenant nous recherchons l'évangile de Jésus-Christ, si nous voulons être des personnes qui comptent pour leur génération, si nous voulons impacter notre génération, si nous voulons faire ce que Dieu nous dit de faire, alors nous allons poursuivre pour rechercher le chemin du développement. Et là, il y a un sujet important que nous allons aborder aujourd'hui. Ce sujet, c'est tout simplement l'argent. En France, l'argent, c'est un tabou, on n'en parle pas. On ne parle pas. Mais la Bible dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et le Seigneur dit aussi, ce que les autres disent dans les ténèbres, vous dites-le sur les toits. Donc, nous allons parler de l'argent. Qu'est-ce que l'argent ? Ça, vous pouvez regarder dans votre dictionnaire. Moi, je n'ai pas regardé. Mais en tout cas, l'argent est une monnaie d'échange. C'est la pièce maîtresse des transactions commerciales. Donc, l'argent, c'est quelque chose que l'homme a façonné pour pouvoir faciliter les transactions commerciales. Première leçon, le commerce précède l'argent. Oui, ce n'est pas l'argent qui crée le commerce, mais c'est le commerce qui a créé l'argent. Donc l'argent a été créé pour le commerce, pour servir de base au commerce, à l'efficacité commerciale. Deuxième chose, l'argent, c'est la richesse qu'une personne détient dans le système bancaire ou dans un trésor. Donc, l'argent traduit ce que tu as. Cela veut dire que ce n'est pas en fait l'argent lui-même qui est la richesse, mais c'est ce que l'argent traduit. Cela veut dire que lorsque tu travailles, lorsque tu as travaillé pendant un mois et qu'on a décidé de te donner ton salaire, la somme d'argent que l'on va te donner représente tout simplement ce que tu as gagné par ton travail. Lorsque tu travailles dans un champ de blé, autrefois lorsque quelqu'un travaillait dans un champ de blé, au bout de son travail, s'il a gagné par exemple 50 sacs de blé, son travail pouvait équivaloir par exemple à 5 sacs de blé. Donc on lui donnait ces 5 sacs de blé. Et l'argent, comme monnaie d'échange, est venu tout simplement pour dire, écoute, voici, au lieu de te donner 5 sacs de blé, on te donne 200 euros, ça correspond à tes 5 sacs de blé. Alors maintenant, ça va t'aider. Ça va t'aider comment? Au lieu de soulever 5 sacs de blé, tu peux tout simplement rentrer léger et chaque fois que tu auras besoin de ton sac de blé, tu peux aller l'acheter. L'autre avantage, c'est que tu n'as pas besoin forcément d'avoir des greniers pour pouvoir stocker tes 5 sacs de blé, mais ton argent suffit à stocker tes 5 sacs de blé et surtout à les acheter exactement lorsque tu en auras besoin. Lorsqu'on avait 5 sacs de blé, mais le blé ne suffisait pas pour vivre, donc tu étais obligé de prendre un sac, d'aller échanger avec celui qui vend du poisson salé pour pouvoir compléter. Tu prenais un autre sac pour aller donner à celui qui a de l'huile et que lui te donne de l'huile. Donc, voyez, c'était pas facile. Mais avec l'argent, tu échanges tout ça facilement sans que ça te coûte. Ce que nous devons comprendre à ce moment-là, c'est que la marchandise, le blé, précède l'argent. Et le blé est plus important que l'argent. Cela veut dire que ce papier sur lequel on a marqué 200 euros n'aurait pas de valeur s'il n'y avait rien acheté. s'il n'y avait rien de stocké quelque part. Si l'homme n'a plus besoin de manger, par exemple, imaginez que Dieu décide que tout à coup, personne n'a plus faim. L'importance de l'argent dans notre vie va baisser. Parce que tous les jours, le matin, tu te réveilles, tu te dis, ah, je n'ai pas de pain. Donc tu es obligé de compter. Des fois, tu vas chercher même des centimes. Et ça te rappelle que l'argent est important. Mais en fait, ce qui est important, c'est le pain. Ce qui est important, c'est toutes ces choses qui existaient bien avant que l'argent soit créé. C'est-à-dire, nous devons comprendre que l'homme est un être qui a des besoins. Et donc, l'homme doit satisfaire ses besoins. Et selon sa capacité de satisfaire ses besoins, cela correspond aussi au développement de sa propre vie. Lorsque l'homme vivait que de la cueillette, lorsque l'homme n'avait pas besoin d'Internet ou de quoi que ce soit pour vivre, voyez, le développement de sa vie correspondait à la façon dont il satisfaisait ses besoins. Dans les lieux reculés de la terre où les gens se contentent tout simplement de ce qu'ils peuvent cueillir, de ce qu'ils peuvent trouver dans la forêt, le développement ne coûte pas les mêmes choses que ça nous coûte lorsqu'on est en France et que l'on se dit non, j'ai le pain, mais il me faut aussi l'ordinateur, il me faut aussi le portable, il me faut aussi la voiture. C'est toutes ces choses donc qui donnent l'importance à l'argent. L'argent aussi, c'est la contre-valeur de la provision que tu détiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque Dieu envoie la provision dans ta vie, lorsque Dieu est Jéhovah Jiré pour toi, celui qui se pourvoit, cela peut avoir une contre-valeur, l'argent. Tu peux avoir donc de l'argent et que cela représente tout simplement la contre-valeur de ce que tu détiens. Donc chacun de nous peut maintenant commencer à penser à l'argent qu'il détient en ce moment même, à la seconde même où je vous parle, pour pouvoir voir la provision qu'il a dans sa vie. Quelle est la fonction de l'argent? Nous l'avons déjà vu, la fonction de l'argent, c'est de faciliter les transactions et les échanges commerciaux. L'argent permet d'acheter et de tout acheter. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Ecclésiaste 10, du verset 18 au verset 20.
Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi même dans ta pensée et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles.
Amen. L'argent répond à tout. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Dans les sociétés où nous sommes, tout est presque commercialisé. Tout est presque commercialisé. Si l'argent répond à tout, cela veut dire que tout ce que tu désires peut se résumer à l'argent. Ça veut dire que si tu as l'argent, tu as tout. Humainement parlant, lorsque Ecclésiaste parle, il parle de la vie des hommes. Voici, Ecclésiaste disait tout est vanité, rien que vanité. C'est la vie de l'homme qui est vanité. C'est-à-dire que l'éducation que nous avons reçue de la société nous fait croire effectivement que l'argent répond à tout. C'est pour ça que l'argent a pris une très très grande importance. Donc cela veut dire quoi? Celui qui a besoin de manger doit avoir de l'argent. Celui qui a besoin de la joie doit avoir de l'argent. Celui qui a besoin de se marier doit avoir de l'argent. Cette importance de l'argent va représenter un problème. Va représenter un problème pour Dieu. Le fait que la société se développe, le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui se battent pour satisfaire parfois les mêmes besoins fait que désormais l'argent est au centre de toutes les convoitises. Parce que par elle, on peut tout acheter, même les choses qui ne sont pas achetables. C'est ce qui fait que l'argent devient donc au centre de toutes les convoitises de l'homme qui a notamment échoué sur le plan spirituel. Lorsque nous échouons sur le plan spirituel, lorsque l'esprit ne prédomine pas en nous, lorsque nous ne sommes pas comme Jésus, voyez, Jésus, lui, il a marché sur une dimension spirituelle. Et vous pouvez voir que lorsqu'il s'est retrouvé chez Marie, Marthe et Lazare, pendant que Marthe s'affairait pour lui faire à manger, Jésus dit, mais attends, Marthe, tu t'affaires, tout ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Donc, nous pouvons comprendre par là que chez lui, l'esprit était plus fort. Nous pouvons voir que lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits de Jacob et que ses disciples sont allés chercher à manger, lorsqu'ils sont revenus, ils étaient en train de forcer, mais maître, mange, mais est-ce qu'il a mangé? Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Néanmoins, c'est nos besoins qui donnent l'importance au commerce et donc à l'argent. C'est parce que nous avons faim, c'est parce que nous avons besoin de voitures, c'est parce que nous avons besoin de voyager, c'est parce que nous avons besoin des maisons que l'argent devient donc la condition sine qua non pour atteindre ces choses. Et dans une société développée comme la France, le système bancaire est au cœur des échanges, donc vous ne pouvez rien faire sans argent. Comme j'ai dit la dernière fois, vous n'êtes pas dans un pays, par exemple, dans certains pays qui sont encore sous-développés ou dans des villes reculées, où vous pouvez aller bâtir votre maison là où vous choisissez et vivre comme vous voulez, de pêche, de cueillette, et ne pas rentrer dans le système bancaire. En France, vous êtes obligé de vous accrocher au système bancaire. Lorsque vous échouez avec la banque, vous êtes en difficulté. Donc, cette importance que prend l'argent au milieu de nous va pouvoir créer une situation grave. Cette situation grave vient de ce que l'argent, à cause de son importance dans le quotidien, va commencer à concurrencer avec Dieu. Parmi les idoles que les hommes ont créées, parmi les idoles que les hommes ont fabriquées, l'idole de l'argent est, qui s'appelle Mammon, c'est cette idole que Jésus a vraiment trouvée comme un rival presque. Parce que même au milieu de son peuple, il a vu l'impact de cette idole. La première des choses qu'il faut éclaircir, c'est que Mammon, ce n'est pas l'argent. C'est-à-dire que ce billet, je ne tiens pas dans ma main, maman. Je tiens un billet de 200 euros, mais ce n'est pas maman que je détiens. Si, lorsque je tiens cette pièce ne représente pas maman. Elle représente une monnaie qui me permet d'acheter ma baguette, d'acheter mon jus d'orange pour prendre mon petit déjeuner le matin avec mon épouse. Voici, là maintenant, c'est pas maman que je tiens. Je tiens donc un carnet où il y a des chèques. C'est un moyen d'échanger des services. De payer au lieu d'avoir de l'argent liquide et de risquer de me faire voler, je peux signer un chèque et au travers de ce chèque, celui qui va me donner la marchandise va pouvoir recevoir l'argent qu'il mérite d'avoir. Voici une carte. C'est une carte bleue. Mastercard. Je ne détiens pas Mammon. Je détiens une carte bleue qui permet effectivement de payer facilement. C'est très facile, ça va très vite. Ça permet de dépenser vite, facilement et vite. Mais je ne détiens pas Mammon. Et c'est très important pour nous aujourd'hui, nous les chrétiens. Nous ne devons pas être les champions de la confusion. Les champions des faux enseignements. L'argent n'est pas mammon. Comme une statue en bois que je ne sais pas qui adore, ce bois ou cette statue n'est pas en soi l'idole. L'idole, c'est la foi que l'on met dans quelque chose. Parce que c'est ce que toi-même tu crois que tu projettes dans cette statue. C'est toi qui lui donnes son importance. C'est toi qui donnes à cette statue des vertus. Vous voyez, il n'y a que l'homme qui peut donner des vertus à quelque chose. Le bois n'a pas des vertus, mais l'homme peut lui donner des vertus. Cela veut dire que mammon, c'est exactement ce que nous pouvons lire dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 10.
Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Que veut dire l'amour de l'argent? Premièrement, qu'est-ce que l'amour? L'amour est une manifestation humaine ou une manifestation divine à s'attacher affectueusement à quelqu'un ou à quelque chose. L'amour, donc, c'est nous qui produisons l'amour. Lorsque Dieu dit qu'il est amour, cela veut dire quoi? Lorsque Dieu dit qu'il est amour, cela veut dire qu'il aime l'homme. Point. Ça ne veut pas dire qu'il aime l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il aime les animaux ou quoi que ce soit. Non, l'amour, c'est pour l'homme. Donc, Dieu aime l'homme et Dieu est un Dieu d'amour. Mais ici, il est dit l'amour de l'argent. Est-ce que l'argent est un homme? Alors pourquoi un homme qui est fait à l'image de Dieu, qui est donc capable de discerner que l'amour c'est ce que j'ai de plus précieux, ce qui doit m'emmener à aimer Dieu selon la loi que Dieu a donnée, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, point. Jésus n'a pas ajouté quoi que ce soit. Tu aimeras ceci, tu aimeras les animaux, tu aimeras les arbres, tu aimeras les oiseaux, non. Tu aimeras ton prochain. Après avoir aimé Dieu, on aime le prochain. Ça veut dire que si on exclut Dieu, si on exclut le prochain, l'amour disparaît. Elle ne sert plus à rien selon Dieu. Mais ici, le Seigneur, la Bible nous dit l'amour de l'argent. C'est-à-dire que l'argent que nous avons identifié tout à l'heure comme un simple objet qui devait traduire les transactions, qui devait traduire ce que représentent les sacs de blé, et maintenant détourné de sa vraie fonction pour en faire maintenant une personne. Oui, parce que pour aimer l'argent, tu es obligé de personnifier l'argent. L'argent représente pour toi une entité vivante, une entité, quelque chose qui peut agir par lui-même. Lorsque nous adorons une statue ou encore en fait une idole, cela veut dire que la personne qui vient vers cette idole croit que cette idole a une personnalité et donc capable d'échanger avec lui. Capable, donc lorsqu'il va dire « Oui, mon Dieu », donc cette statue va aussi dire « Oui, tu es mon fidèle ». Donc, puisque l'homme vient pour satisfaire ses besoins, donc la statue a des vertus pour pouvoir faire quelque chose. Voilà pourquoi la statue devient une personne importante. L'amour de l'argent veut dire que l'argent, pour nous, l'argent a un esprit. L'argent a une pensée. Donc, tu veux l'aimer pour t'attacher à lui. Tu veux l'aimer pour lui montrer que oui, je t'aime, je suis ton ami. Pour que l'argent aussi puisse être ami avec toi. Parce que lorsqu'on aime, c'est bien pour pouvoir recevoir l'amour en retour. Lorsque Dieu a dit tu aimeras ton prochain, c'est parce qu'il a doté aussi ton prochain d'une capacité de t'aimer pour que le monde devienne un monde d'amour. Lorsque la Bible nous dit d'aimer Dieu, c'est parce qu'en retour, Dieu est capable d'aimer. Mais lorsque nous aimons l'argent, qu'est-ce que l'argent va faire? Qu'est-ce que ce billet va faire? C'est un pauvre billet. Je sais même déjà, bon, je sais que celui-là est vrai. Mais vous pouvez aussi posséder un qui n'est même pas vrai. Donc c'est déjà une abomination que d'aimer un bout de papier ou d'aimer même ce que ça peut représenter. Si tu as tes 5 sacs de blé, est-ce que tu vas dire que « Oh, j'aime mon blé ». Tu ne peux pas dire que tu aimes ton blé parce que dans 2 matins, tu vas faire du pain pour manger. Donc, c'est utile pour toi, c'est bien pour toi, c'est un bien. C'est un bien. Et un bien, c'est quelque chose de bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On utilise un bien. On mange, on donne à qui on veut, c'est un bien. C'est fait pour être utilisé. Mais pour que l'argent devienne l'objet de notre amour, là, il faut lui donner un autre statut. Et c'est malheureusement ce que les hommes ont fait. Ils ont donné à l'argent un statut. Et pour Dieu, c'est une abomination parce qu'il dit, mais attends, ils ne se rendent même pas compte ce que ça représente, l'argent. C'est un papier que l'on a taillé, qu'on a écrit, bon, ça veut dire ceci. Et même tout le système bancaire lui-même, il est en train de veiller, de lutter parce qu'il y a tellement de faux. Et à cause de ça, le Seigneur dit que l'amour de l'argent, c'est-à-dire la relation avec maman, l'argent idolâtré, devient la source de tous les maux. C'est parce qu'on aime l'argent qu'on peut aller jusqu'à tuer quelqu'un auquel Dieu t'a dit « aime-le ». Voyez, qu'on peut aller jusqu'à tuer quelqu'un pour de l'argent. Ce n'est pas tout simplement parce qu'on veut satisfaire les besoins primaires que Dieu nous a donnés, se manger, se nourrir, dormir, toutes ces choses pour lesquelles Jésus a dit, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Ne vous souciez pas de ces choses, ne vous souciez pas parce que Dieu prend soin, il fait toutes ces choses. Ce sont des païens qui se soucient, ça veut dire que le souci, la peur du lendemain, la peur de ne pas avoir, fait qu'on aime l'argent jusqu'au point où l'on pourrait faire du mal. Et lorsque Jésus est venu pour pouvoir purifier son peuple, il a été confronté à des idoles. Et devant l'idole de l'argent, symbolisée par ce jeune homme, le jeune homme riche, auquel Jésus a dit « Suis-moi ». Jésus a vu un jeune homme qui avait une certaine qualité. Il respectait la loi. Un jeune homme qui voulait rentrer dans le royaume de Dieu. Un jeune homme qui avait identifié que Jésus était un bon maître. Vous voyez, il avait toutes les bases pour être disciple de Jésus. Mais pourquoi il a échoué? C'est devant l'amour de l'argent. Ce jeune homme aimait tellement son argent qu'il s'est dit, ah non, cette parole-là, je ne peux pas l'écouter. Allez vendre tout ce que j'ai. Et donner aux pauvres mon argent, mes biens. Ce jeune homme n'a pas pu le faire. C'est alors que Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Si maintenant, vous voulez que Dieu soit votre maître, et que de l'autre côté, le problème de l'idolâtrie vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des biens, vis-à-vis de ce qu'on veut posséder, si ce problème n'est pas réglé, vous n'avez pas encore réussi parce que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir. La preuve, c'est que lorsque nous nous convertissons, que nous venons dans l'église, s'il y a un domaine dans lequel nous péchons beaucoup, c'est le domaine effectivement de l'argent. Parce que lorsque Dieu va commencer à nous dire que tu vas payer ta dîme, ah bon? Je vais payer ma dîme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes à l'Éternel 10% de tes revenus. Ça commence à tourner. Et lorsqu'on dit qu'il faut faire des offrandes grâce au Seigneur, que Dieu est capable de se dire « donne telle chose », nous voyons qu'aussitôt nous sommes en difficulté. Nous sommes en difficulté. Soit parce qu'effectivement nous avons l'amour de l'argent, ou tout simplement aussi parce que nous n'en avons pas. Et cela pose un problème. Parce que dans la foule de nos besoins, il nous est difficile de pouvoir se dire que mais je n'ai que 10 euros. Dans ces 10 euros, il faut que j'enlève encore 1 euro pour le Seigneur. C'est le domaine que Jésus voit, qui concurrence encore avec lui. Lorsqu'il s'approche des personnes, il voit qu'il y a ce problème-là, ce problème d'argent. Mais lorsque nous prêchons pour pouvoir chasser maman de ta vie, c'est-à-dire renoncer à l'amour de l'argent. Pour renoncer à l'amour de l'argent, tu as besoin d'entendre cette parole où Jésus dit « Ne vous inquiétez pas de telle chose ». C'est-à-dire que de savoir que Dieu est celui qui pourvoit pour toi et qu'il est capable de pourvoir fidèlement et que l'argent n'est pas une personne, que l'argent ne doit pas être dans ta vie comme un maître. L'argent doit être quelque chose que tu possèdes. Lorsqu'on dit que « Oh, cet homme te possède », ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle d'une personne, ça veut dire que cette personne te domine. Cette personne te domine, cette personne est capable de te faire faire des choses. Alors, lorsque je dis que nous devons posséder de l'argent, ça veut dire que nous dominons sur l'argent que nous possédons. Comme un bien, comme tu disposes de ton vêtement, tu peux en faire ce que tu veux, le donner à qui tu veux. C'est ton vêtement. Dans notre vie, l'argent représente aussi tous ces biens que nous devons posséder pour pouvoir en faire l'usage qui convient. Nous ne devons pas adorer de l'argent. Nous ne devons pas embrasser de l'argent. Pour faire, nous ne devons pas être comme dans des films où nous voyons lorsque les voyous ont envolé beaucoup d'argent, après ils se roulent dedans, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous devant cet argent. L'argent ne doit pas manifester quelque chose, voyez, comme lorsque dans les films on montre quelque chose qui brille dans l'œil, comme une étoile qui brille. L'argent ne doit pas nous parler, l'argent ne doit pas nous dicter notre ligne de conduite. Mais c'est nous qui devons utiliser l'argent selon ce qui est bien de faire. Je prends encore un exemple. Lorsque tu as travaillé pendant un mois et qu'au bout on te donne 200 euros pour salaire, maintenant le travail que tu as fait est derrière toi et tu te retrouves en face de toi, tu as 200 euros. Bien. Si tu ne comprends pas que ces 200 euros représentent le travail que tu as fait, si tu ne comprends pas ça, si tu dis « Oh, mais si j'ai 200 euros », si ta réflexion ne dépasse pas ce billet pour voir le travail que tu as accompli, tu vas mal dépenser cet argent. Tu vas te dire « Oh, j'ai mes 200 euros, allez, il faut que maintenant, aujourd'hui, là, il faut que j'aille me distraire, il faut que j'aille faire telle chose », parce que tu ne vois que 200 euros. Donc, les 200 euros vont te dire « Mais avec ça, tu peux acheter ça, tu peux acheter ça, tu peux acheter ça, tu peux acheter ça. » Donc, tu vas dépenser tes 200 euros. Mais si, lorsque tu regardes 200 euros, tu dis « C'est un mois de travail », déjà, la façon dont tu vas utiliser cet argent va changer, parce que tu respecteras le travail que tu as accompli. Tu vas te dire que ça m'a coûté un mois de travail. Mais il faut que ça me coûte aussi au moins un mois d'alimentation. Parce que je peux vous dire que souvent, c'est ceux qui sont pauvres qui dépensent plus que ceux qui sont riches. Oui, oui, ça vient de là. Ça vient de ce que nous ne savons pas. Lorsque tu vois l'argent, tu as rêvé tellement d'argent, tu dis « Ah, j'ai eu l'argent, j'ai eu l'argent ». Non, 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 ce n'est pas que tu as eu l'argent. Tu as travaillé et voici le résultat de ton travail. Que ces 200 représentent un mois de travail, de sueur et de labeur. Et le jour que tu t'es décidé de travailler, tu dis « Je vais travailler pour gagner mon pain ». Ce jour-là, tu t'es concentré. Tu as travaillé, tu as enduré. Et maintenant, pour dépenser ton argent, maintenant quelque chose va t'échapper. Pour dépenser ton argent, tu vas maintenant te dire « Oh, j'ai 200, je vais faire ». Non, tu dois réaliser que « Mais pourquoi j'avais travaillé pendant un mois ? J'avais travaillé pour faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais maintenant que j'ai 200 euros, pourquoi 200 euros me dit que non, va plutôt faire telle chose avec moi ?» Non, non, non. Moi, je savais pourquoi je voulais gagner 200 euros. J'avais fait mon programme depuis lorsque j'ai commencé à travailler. Je vais tenir mon programme. Je vais faire ce pourquoi je suis allé travailler le des jours durant. L'argent ne doit pas te parler. Pourquoi ? Parce que l'argent est un mauvais maître. Pourquoi ? Parce que l'argent est un mauvais maître. L'argent est un mauvais maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas bon de posséder de l'argent et que tu ne sais pas quoi en faire. C'est très mauvais. Tu dois savoir ce que tu veux faire avec l'argent avant de l'avoir. Donc, ce n'est pas lorsqu'on a de l'argent que l'on doit faire des programmes. C'est bien avant. Lorsque tu vas travailler, c'est pour un besoin. Par exemple, tu veux bâtir ta maison. Et lorsque tu vas travailler, lorsque l'argent arrive, maman, l'amour de l'argent peut te dire, bah attends, avec cet argent, regarde telle chose. Qui de vous, qui n'est jamais tombé dans le piège, tu as de l'argent entre la banque et chez toi, tout ton argent est parti. Tu as acheté des choses que tu n'avais jamais pensées. Et ce que tu avais pensé avant, plus d'argent pour le faire. C'est là lorsque l'argent parle. C'est là lorsqu'on a l'impression d'avoir le pouvoir de tout faire. Et on se dit, oui, l'argent peut tout. Mais aujourd'hui, pour nous qui voulons nous développer, essaye un peu de penser un peu si tout l'argent que tu as touché... D'ailleurs, ils disent même que l'argent se touche. On touche. Tout l'argent que tu as touché, si tu peux faire le compte, combien de milliards tu aurais aujourd'hui? Et si dans nos mains, même si ce n'est pas des milliards, peut-être des millions, mais qu'avons-nous pu faire avec ces choses? Pourquoi sommes-nous encore si dépouillés, si démunis? Il faut que nous puissions comprendre aujourd'hui que nous devons maintenant rechercher le bon rapport avec l'argent. Il y a d'une part l'idolâtrie de l'argent, qui est un grand péché. Et nous avons entendu que c'est la source de tous les maux. Les disputes, les guerres, les meurtres, les divorces, l'argent... Les divorces. Lorsque l'argent n'était pas là, ou lorsqu'il y avait peu d'argent, tout allait bien. Et on a prié pour que l'argent arrive. Eh bien, on n'a pas su placer l'argent à sa place. L'argent a commencé à dicter sa loi et la maison a volé en éclats. L'argent n'est pas un bon maître. Il ne faut pas lui donner... Il ne faut pas que l'argent dicte la conduite. Il ne faut pas que tu dises que j'ai 200 euros, qu'est-ce que je vais en faire? C'est exactement poser la question à l'argent. Dis-moi ce que je veux faire avec toi. Il faut mettre l'argent quelque part. Après, tu fais tes programmes. Après, lorsque tu as besoin d'utiliser, tu prends l'argent et tu vas l'utiliser. Il ne faut pas prendre l'argent, commencer à regarder. L'argent, vraiment. C'est l'idolâtrie, c'est aimer l'argent. Mais si maintenant le problème de l'idolâtrie est réglé au milieu de nous, si nous n'idolâtrons pas l'argent, est-ce que pour autant nous sommes plus avancés? Nous ne sommes toujours pas avancés, parce qu'il y a encore beaucoup de confusion par rapport à l'argent. Il peut y avoir encore au milieu de nous des personnes qui se disent non, moi je n'aimerais pas avoir beaucoup d'argent parce que c'est très difficile de rentrer dans le royaume des cieux lorsqu'on a de l'argent comme le jeune homme riche. Toutes ces choses nous maintiennent dans le sous-développement. Tu as le droit de posséder, tu as le droit de gagner de l'argent, tu as le droit d'utiliser ton argent pour faire les bonnes choses, les bonnes œuvres que Dieu met dans ton cœur de faire. Tu as le droit d'avoir de l'argent pour aider la veuve et l'orphelin. Tu as le droit d'avoir de l'argent pour développer ta famille, développer ta maison. Tu as le droit d'avoir de l'argent. Pourquoi? Parce que tu as le droit d'avoir des biens. Nous avons dit que l'argent traduit les biens que nous possédons. Si tu as un grand domaine, tu peux stocker tes sacs de blé, tes sacs de riz, tout le monde verra, ah oui, il est riche. Mais si tu veux pas, si tu n'as pas de place pour stocker tout ça, surtout lorsqu'on habite en France dans des petits appartements. Donc nous sommes obligés de pouvoir... traduire nos biens en argent. Donc nous aussi, nous sommes obligés d'aller à la banque Pourquoi? Parce que ce n'est pas là, ton argent n'est pas en sécurité lorsque tu le gardes à la maison. Et si la maison brûle, ton argent aussi va brûler. Donc nous sommes obligés de mettre aussi notre argent en banque. Et ce n'est pas un péché que d'avoir de l'argent en banque. Qui a de l'argent en banque? Et les autres, votre argent est où? Il y en a qui ont mis sous le lit. Il ne faut pas avoir honte d'avoir de l'argent en banque. Cet évangile-là, où on veut mépriser les riches, dans la parole qui a été lue tout à l'heure, il a été dit dans Ecclésiaste de ne pas avoir de mauvaises pensées sur les riches. Tu peux retrouver cette parole, donc Ecclésiaste 10, verset 20. Oui, il faut qu'on voit ça. Parce qu'au milieu des chrétiens, l'argent est tabou. L'argent n'est pas tabou.
Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Mm-hmm.
L'oiseau entend tout ce qu'on dit sur des gens parce qu'ils sont riches. Donc vous voulez dire qu'Abraham a un problème? Vous voulez dire qu'Isaac a un problème? Si Abraham était au milieu de vous, vous allez le mépriser? Si David était là pour vous, il n'est pas un enfant de Dieu. Dieu dit, je bénirai vos entreprises, donc il n'y a pas de problème à avoir de l'argent. L'autre problème que nous avons, c'est le fait de bien fonctionner dans le système qui a été mis en place par le monde, c'est-à-dire les banques et tout le reste. Nous avons beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Lorsque nous nous retrouvons avec un chéquier, on fait des dégâts. C'est-à-dire que le chèque n'est pas en lui-même de l'argent. Il est valable en fonction de l'argent que tu as dans ton compte. Lorsque tu signes ton chèque et que tu dis « Au nom de Jésus, je signe. » Ce n'est pas un comportement sage parce que il reste à savoir si déjà Jésus est d'accord avec toi. Si Jésus est d'accord avec toi, là, il va faire quelque chose pour te sauver. Pour te sauver. Mais lorsque tu fais et qu'après, tu deviens au rouge, tu vas devoir payer encore beaucoup plus pour retrouver une situation normale. Et ces choses arrivent souvent dans notre vie. Si nous voulons maintenant nous développer, comme on a dit, nous devons régler ce problème. C'est-à-dire que nous devons travailler pour avoir de l'argent et donc bien dépenser notre argent au lieu de dépenser l'argent que nous n'avons pas. Ce n'est pas ce que Jésus enseigne lorsqu'il parle des paraboles des talents. Et il dit au contraire que nous devons fructifier ce que nous avons reçu pour pouvoir être censés. En tout cas, ce n'est pas le Seigneur qui veut que nous puissions payer les agios. Oui. Surtout maintenant, c'est cher. Parce que tout ça aussi, c'est le pillage. Parce qu'on n'a on a pas et on continue à prendre le peu qu'on a. Et c'est ce que le Seigneur dit. À celui qui n'a pas, on prendra même le peu. Même ce qu'il croit avoir, tout ça, ça va aller dans les agios, dans les ceci, dans ça. Ça veut dire que le Seigneur ne voit pas que nous sommes sages par rapport à ces choses. Nous ne sommes pas sages. Nous nous comportons d'une façon insensée. Donc, et pourquoi ces choses arrivent régulièrement? C'est parce que nous n'avons jamais pris la décision de nous développer et de prospérer. Nous n'avons jamais pris cette décision. Je vous dis, il n'y a que les chrétiens américains qui peuvent prendre ce genre de décision. Mais nous, en France, nous n'avons jamais pris la décision de prospérer. Parce que lorsque Dieu dit, je bénirai vos entreprises, c'est-à-dire qu'il te fait prospérer, la croissance. Ça veut dire croissance. Bénédiction veut dire croissance. Et pourtant, tous les jours, nous venons bien ici, nous demandons la bénédiction de Dieu. Oh, le Seigneur nous a bénis. Lorsque tu dis, oh, Dieu m'a béni. Oh, j'étais au culte, Dieu m'a béni. Mais ça veut dire quoi, Dieu t'a béni? Le mot béni veut dire croissance. Ça veut dire que Dieu t'a placé dans une croissance. Et toute ta vie est dans ce processus de croissance. La bénédiction, ce n'est pas le manque. La bénédiction, ce n'est pas la pauvreté. Mais c'est vraiment la bénédiction. Et puisque nous ne sommes pas dans la bénédiction, donc nous avons besoin des miracles tous les jours de notre vie. Nous avons besoin d'un miracle pour manger du pain, pour le petit déjeuner. Nous avons besoin d'un miracle pour le déjeuner. Nous avons besoin du miracle pour le dîner. Or, la définition du miracle, c'est quelque chose d'exceptionnel, voilà. Le miracle, c'est quelque chose d'exceptionnel. Lorsque Jésus a multiplié le pain, lorsque les mêmes sont revenus le lendemain, est-ce qu'il a encore multiplié le pain? Il dit, je sais pourquoi vous me cherchez. C'est parce que vous avez mangé le pain, vous voulez encore. Le miracle, ce n'est pas pour tout le temps. Allez travailler. Nous n'avons jamais pris la décision de prospérer. Pourquoi? Qui fait prospérer? C'est? Quel Dieu? Non, mais dites-moi, c'est quel Dieu? Oui, mais le Dieu, c'est qui ce Dieu? Mais qui il est pour toi? Oui, c'est ton Dieu, d'accord? Celui qui fait prospérer, c'est ton Dieu. Et si toi, tu voulais prospérer et que tu as le Dieu qui fait prospérer, tu serais prospère. Oui, ce n'est pas le Dieu des autres pour dire, ah, si on avait ce Dieu-là, nous aussi, on serait prospère. Mais au contraire, c'est même ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui ne sont pas, comme le Seigneur dit, les enfants de ce siècle, c'est eux-mêmes qui viennent même profiter de notre Dieu. Parce que lorsque dans un pays, Dieu sait que dans un pays comme la France, il faut créer des emplois. Si maintenant les gens du monde créent des emplois et que Dieu sait que même ses enfants seront obligés d'aller chercher des emplois quelque part, il est obligé de faire prospérer des PDG. Oui. Mais pour que le pays ne meure pas de faim. Mais cela veut dire que nous n'avons jamais voulu être PDG. Parce que ce serait plus facile pour Dieu de nous faire prospérer comme il a fait prospérer Abraham, Isaac et Jacob. Comme il a fait prospérer David. Le Dieu qui fait prospérer, c'est ton Dieu. Mais ça veut dire quoi, ton Dieu? C'est-à-dire Dieu qui est en relation avec toi. Nous n'avons jamais pris la décision de prospérer. Parce que si nous prenons la décision de prospérer, nous allons poser la question à Dieu. Donc Dieu va te dire, écoute, tu vas prospérer dans le blé. Tu vas prospérer dans la banane. Tu vas prospérer dans le maïs. Nous avons peur que Dieu nous dise ça. Ça veut dire quoi, tu vas prospérer dans la banane? Ça veut dire, mon gars, va cultiver la banane. Oui, ça veut dire, va cultiver la banane. Et ça, on a peur de ça. Si Dieu te dit, tu vas prospérer dans le maïs, ça veut dire, va cultiver le maïs. Mais ça, on a peur de ça. Ce que nous voulons, c'est de prier, de jeûner et que Dieu fasse un miracle. Que Dieu dispose quelqu'un pour nous donner. Mais oui, ça c'est la vie chrétienne qu'on veut. Ah, Dieu est bon, Dieu m'a béni, il a fait un miracle pour moi, je n'avais pas d'argent, il m'a donné. Tu démontres par là toi-même que tu ne prospères pas. Tu démontres par là que tu n'as pas de provision pour ta vie, tu n'as aucune source. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te ressourcer parce que tu n'as rien. Tu es dans la précarité, tu as besoin effectivement que quelqu'un pense à toi. Mais comme les hommes ne pensent pas toujours à ceux qui n'ont rien, je peux te dire qu'on peut toujours attendre. C'est difficile. Nous devons avoir de l'argent. Parce qu'effectivement, pour le monde, l'argent répond à tout. Ça veut dire que tout ce que nous demandons du monde, nous pouvons l'obtenir par l'argent. Nous voulons le bâtiment, nous pouvons l'obtenir. Nous voulons des meilleures conditions d'évolution, nous pouvons l'obtenir. Nous voulons des domaines, nous pouvons obtenir. Nous voulons une télévision, nous pouvons l'obtenir. Une radio, nous pouvons l'obtenir. Nous voulons des bus pour emmener les gens au culte de gospel. Nous pouvons l'obtenir par l'argent. C'est ce que le monde attend. Le monde, c'est ça qu'il attend. Le monde ne comprend que le langage de l'argent. Si tu as l'argent, on te respecte. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que la sagesse du pauvre est méprisée, parce que le monde, c'est l'argent qu'il attend. Le langage de l'argent. tu arrives, on dit, toi, c'est qui, toi? Et il faut qu'on dise, attention, c'est monsieur un tel. Ah, c'est monsieur Goma. Qui c'est qui, monsieur Goma? Ah, tu sais, c'est lui qui a... Ah bon, oui, monsieur Goma, oui, tout ça. Oui, monsieur. Mais oui, le monde n'est non tant que... Le monde va te mesurer par ce que tu possèdes. Si les chrétiens possédaient en France, on allait commencer à les respecter. Que disent les chrétiens? Attention. Ça, c'est le langage que le monde attend. Même si nous savons qu'on ne peut pas tout acheter. Nous ne pouvons pas acheter l'amour. Nous ne pouvons pas acheter Dieu. Nous ne pouvons pas acheter le pardon de nos péchés. Nous ne pouvons pas acheter toutes ces choses. Donc nous savons pour nous qui savons que Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Pour nous qui savons que l'esprit est au-dessus des biens matériels. Jésus nous a élevés au-dessus de l'argent. Il nous a élevés au-dessus de l'argent. Mais nous avons besoin de l'argent pour faire prévaloir le royaume de Dieu sur la terre. Nous avons besoin d'argent pour nous implanter. Nous avons besoin de l'argent pour manifester la gloire du royaume de Dieu. Nous avons besoin d'argent pour bâtir le temple. Salomon a eu besoin d'argent pour bâtir le temple. Il a eu besoin d'or, d'argent pour acheter tout ce qu'il y avait de précieux pour manifester le royaume de Dieu en son temps, c'est-à-dire le temple de l'Éternel. Nous avons besoin de l'argent pour communiquer, pour échanger, parce que nous avons besoin de services, nous avons besoin de ces choses et nous devons avoir de l'argent. Nous devons avoir de l'argent en fonction de ce que nous voulons faire. Avoir de l'argent en fonction de ce que tu veux faire. Ça veut dire que tu as d'abord un projet que Dieu fait descendre dans ton cœur. Et tu calcules et tu trouves que ce projet coûte 10 millions. Et c'est exactement de cet argent que tu as besoin pour dire, Seigneur, je fais alliance avec toi pour avoir cet argent parce que je ne veux pas mourir sans avoir accompli le projet que tu as mis dans mon cœur. Et ce projet coûte tant. J'ai tout simplement besoin d'argent pour ce que j'ai envie de faire. Si je n'ai plus rien à faire, j'ai plus besoin d'argent. Mais tant que j'aurai besoin de faire quelque chose et que cette chose représente le royaume de Dieu, que cette chose représente quelque chose que Dieu voit que c'est bien. Là, j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin d'avoir cet argent. J'ai besoin de l'avoir en banque pour pouvoir utiliser mon chéquier, utiliser ma carte bleue pour ces choses. Voici ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Avoir de l'argent et non se laisser avoir par l'argent. Et l'argent peut avoir de deux manières. L'argent peut avoir parce que l'argent te fascine et que tu commences à adorer l'argent. Où l'argent peut t'avoir, c'est-à-dire qu'il peut te piller et que tu n'as rien et que tu deviens donc un paria. Si Dieu est notre Dieu et que Dieu est vrai, si Dieu dit que partout où tes pieds foulent, je te le donne, et que si nous appelons Dieu Jéhovah Jiré, nous devons savoir que si nous n'avons pas, certainement nous avons un problème. Nous voulons toujours les délivrances. On veut toujours délivrer, oh, j'ai un démon ici, délivre-moi, oh, telle maladie. Mais aujourd'hui, Dieu a besoin de te délivrer de ton rapport avec l'argent. Dieu a besoin de te délivrer, parce que si on avait une bonne compréhension de l'argent, Dieu nous donnerait de l'argent. Oui, Dieu va nous donner de l'argent s'il sait que nous pouvons posséder cet argent pour le glorifier, pour faire ce qu'il a de bien de faire. Si Dieu voit que l'argent ne va pas nous saouler, il va nous le donner. Il va permettre... Parce que c'est lui qui fait prospérer. Quelles que soient les malédictions dans lesquelles tu te trouves, la Bible dit que Dieu transforme les malédictions en bénédictions. La première fois que Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit non, ne prenez ni sac ni argent. Allez-y. Ils devaient expérimenter la puissance du royaume de Dieu. Il devait être indépendant à l'influence de l'argent. Il devait voir la primauté de l'esprit sur les choses matérielles. Mais lorsque maintenant le maître a tout accompli et qu'il est monté au ciel pour que les disciples puissent travailler, il a dit cette fois-ci que celui qui a une bourse prenne. Ça veut dire que désormais, vous aurez besoin d'argent. Pourquoi? Parce que déjà, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Que les hommes seront violents, méchants, vous serez méprisé. Et de là, qui va se lever pour te donner? Vous devez non seulement savoir, que vous devez non seulement réussir, vous battre, mais vous devez manifester mon royaume. Jésus sait que nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu as besoin d'argent. Vas-y, comme ça, ceux qui dorment, ils vont se... Tu as besoin. Tu vas dire maintenant toi-même, j'ai besoin d'argent. Et ce n'est pas un péché. Et je renonce à tous les démons qui veulent me faire croire que c'est un péché d'avoir de l'argent et qui veulent me maintenir dans l'ignominie et me rendre incapable de bâtir le témoignage de Jésus-Christ dans ma génération. Nous avons besoin de prospérer. C'est fini maintenant l'évangile, l'ignorance, l'incapacité d'être là. Jésus nous dit de faire des choses, on est incapable de faire. Et que dit notre Dieu? Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu n'a pas dit qu'il aime l'argent, mais il a dit que l'argent lui appartient. Et si Dieu est dans ta vie, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu est en toi. Où est son argent? Il est venu sans son argent. il est venu avec tout. Il est venu avec l'argent. C'est toi qui ne veux pas recevoir l'argent. Et nous avons dit la dernière fois que l'histoire de KFC, en tout cas, on nous a raconté que l'histoire de KFC, en fait, c'est l'histoire d'un chrétien qui a reçu de Dieu la révélation de vendre du poulet. Et il a vendu son poulet. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à vendre d'ailleurs. C'est même toi le client. Et il est, et lui qui était pauvre, qui était à la retraite, qui était presque SDF, est devenu, et il est mort multimillionnaire. Et ses enfants continuent à bénéficier aujourd'hui de son entreprise. Et si c'est Dieu qui a fait ça, donc chacun de nous obtient de Dieu ce qu'il désire, puisque le Seigneur dit « Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira le désir de ton cœur ». Est-ce que tu désires bâtir un temple à l'Éternel? Est-ce que tu désires faire des grandes choses à Dieu? Dieu regarde à nos désirs. Si maintenant quelqu'un veut prospérer, commence à avoir des bons désirs par rapport à l'argent. Par exemple, Seigneur, si tu me fais prospérer, oh, je vais bâtir en France une cathédrale de gospel. Une belle cathédrale où on va faire le culte de gospel. Voilà un bon désir qui plaît à Dieu. Et il va te faire prospérer. Si quelqu'un veut prospérer, qu'il dise, Seigneur, moi, même si je gagne des millions, je paierai fidèlement ma dîme. Voilà autant de motivations que le Seigneur va, pour lesquelles le Seigneur va te bénir. Tu as aussi le droit de dire au Seigneur, si tu me bénis, je veux vraiment vivre vraiment dans le bonheur avec ma famille, je veux vraiment vivre dans la joie. Je veux pouvoir prendre des vacances avec toute la famille. On va voyager. Vous voyez, des bonnes motivations pour utiliser de l'argent. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Et il n'a pas de problème pour donner l'argent à ses enfants. Pourvu qu'il y ait un minimum de sagesse. Et surtout, l'alliance avec le Seigneur. Puisque l'argent a une influence, Dieu est obligé de faire alliance avec nous pour que cette influence soit anéantie. Donc nous faisons alliance avec le Seigneur pour être une génération de chrétiens qui prospèrent, qui vont représenter un poids dans leur pays. Jusqu'ici, nous nous sommes affaiblis. Jusqu'ici, nous nous sommes battus, mais de la mauvaise manière. jusqu'ici, nous avons fait des mauvais choix. Nous avons laissé à l'ennemi le domaine qui pouvait nous permettre de pouvoir, au contraire, influencer notre génération. Nous sommes sortis de tout ce qui est l'aspect des relations commerciales. Nous ne sommes pas forts dans ces relations. On peut venir nous piller, on peut venir tout nous prendre, on peut nous tromper parce que nous ne sommes pas avisés dans ce domaine. Mais le monde, c'est un monde de commerce. Nous devons garder la vertu, mais nous devons réussir à tirer notre provision. Parce que Dieu qui a créé l'homme a d'abord créé la provision pour la vie de l'homme. Mais certaines personnes, dans un système de cupidité, se sont accaparées de toute la provision. Vient le temps de la justice. C'est juste que tu prospères. C'est juste que dans un pays riche comme la France, que toi aussi tu prospères. C'est juste. C'est juste. Les justes posséderont le pays. Est-ce que vous allez posséder la France sans l'argent de la France? Comment vous pouvez faire? Et le Seigneur dit plus. Non seulement les richesses du pays dans lequel tu te trouves, Dieu dit que tu suceras la mamelle des nations. Que les navires des nations seront détournés vers toi. C'est-à-dire que les richesses des nations viendront vers toi. Mais qui veut recevoir des richesses? Qui veut? Qui veut se disposer pour que Dieu le bénisse? Qui veut être un créateur d'emplois? Qui veut? Qui veut? Qui veut avoir un port pour que les navires des nations viennent accoster là? Qui veut comprendre ces choses? Qui veut changer de mentalité? Qui veut arrêter de se séduire? Qui veut croire qu'en restant là, dans une mentalité d'autrefois, que nous pouvons faire, que nous pouvons manifester la gloire de Dieu dans le pays? Qui veut croire qu'on peut convertir la France sans argent? Qui veut croire cet évangile-là? Lorsque tu pries, tu vas chasser le démon. Le démon qui retient le français, par exemple, dans l'incrédulité. Mais est-ce que lorsque le démon est parti, ça veut dire que sa mentalité a changé? Mais comment tu vas changer sa mentalité? C'est dans ce qu'il va voir. Donc, prier, c'est bien pour chasser le diable et les démons. Mais nous avons maintenant besoin de l'argent pour pouvoir que la société se développe, que nous allions dans l'avant, que nous puissions démontrer que Dieu n'est pas le Dieu de la décroissance, que Dieu n'est pas le Dieu des manques ou des déficits. Dieu n'est pas le Dieu des dettes, mais il est le Dieu qui fait prospérer, qui rétribue fidèlement, qui enrichit, qui rend prospère et puissant, qui nous fait siéger avec les notables du pays. C'est ça Dieu. Parce que nous ramenons souvent Dieu à notre condition de vie. Nous créons un Dieu à notre image, selon ce que nous vivons. Mais Dieu a existé bien avant toi. Il vit éternellement, il est le même et il ne change pas. C'est-à-dire le Dieu de la bénédiction et qui pourvoit dans la vie de ceux qui croient que Dieu est capable de te faire prospérer. Maintenant, si quelqu'un veut vraiment prospérer, si quelqu'un maintenant n'a plus de problème avec l'argent, si maintenant l'idolâtrie c'est fini et l'ignorance aussi de l'enjeu que représente l'argent, si tu as compris toutes ces choses, que tu as besoin d'argent, c'est un besoin comme tout autre. Une nécessité, surtout pour qui veut faire des choses. Lorsqu'on est dans la dépression, on n'a plus besoin de rien. Ni de l'argent, ni de faire quoi que ce soit, parce que du coup, on se laisse mourir. Mais je parle à ceux qui veulent vivre. Je parle à ceux qui veulent faire des choses. Je parle à ceux qui veulent bâtir une tour. Et pour bâtir une tour, il faut calculer la dépense. Et la dépense, c'est ce que l'on fait avec l'argent. Ça veut dire que tu veux bâtir ta tour, il faut calculer à l'argent. Est-ce que tu as l'argent pour bâtir une tour? Or, Dieu veut que nous puissions bâtir une tour. Tout simplement pour terminer, sachez que c'est Dieu qui donne l'argent et c'est Dieu aussi qui peut nous retenir dans la pauvreté. Oui, oui, Dieu peut nous retenir dans la pauvreté s'il n'est pas satisfait de nous, de notre façon de se comporter dans le temple. Si nous avons encore un problème, si nous ne comprenons pas la gloire de payer notre dîme, si nous ne comprenons pas la joie qu'il y a de donner des offrandes dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire donner à la communauté. Lorsque nous donnons l'argent à l'Église, nous donnons à la communauté, nous donnons à nous-mêmes. Nous faisons exactement ce que le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que nous donnons à l'ensemble ce qu'il nous faut pour nous développer. Donc, de nous retrouver dans de meilleures conditions, ce qu'il nous faut pour aider ceux qui n'ont rien. Parce que c'est aussi la réalité que l'on peut se retrouver dans une situation de précarité, même lorsqu'on a la volonté de faire. Il y a des cas, mais ça doit rester des cas. Vous comprenez? Ça doit rester des cas. Si la précarité est la règle, là, il y a problème. Il n'y a plus personne qu'on peut aider. Pour pouvoir échapper à maman, il faut être généreux. Généreux d'abord avec le Seigneur. C'est-à-dire que la générosité avec le Seigneur, c'est le fait que l'argent ne peut pas représenter un obstacle dans ta relation avec Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu te dit, comme il a dit au jeune homme riche, « Vends et suis-moi », tu n'auras aucun problème. L'argent ne peut pas être une idole qui s'interpose entre toi et la volonté de Dieu. La générosité vis-à-vis de Dieu, c'est de mettre Dieu au-dessus de tout ce que tu possèdes, c'est-à-dire de ton argent et tout ce que tu possèdes. Et pour cela, nous allons lire un dernier passage, c'est Proverbe 8, le verset 10.
Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix.
Voilà. C'est Dieu qui nous instruit. Ce n'est pas notre argent qui nous instruit. Ce n'est pas l'argent qui va te dire ce que tu vas faire. C'est Dieu qui te dit ce que tu vas faire avec ton argent. Et chacun de nous doit mettre la parole de Dieu au-dessus de l'argent. Parce qu'aujourd'hui que je te parle, maintenant que je suis en train de te parler, si tu es attentif, si tu as une bonne terre et que cette parole est tombée dans une bonne terre, considère aujourd'hui ta situation, tu n'as rien. Certains ont même moins. C'est-à-dire que tu dois à la banque. Mais si tu as bien entendu cette parole, au bout de quelque temps, Dieu va te faire prospérer. Comment tu peux pouvoir mettre maintenant l'argent au-dessus de Dieu? Que tu aies de l'argent ou pas, sache que Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Laisse Dieu à sa place. C'est ton seul Dieu. L'argent ne doit jamais être ton Dieu. C'est lui qui te guide et c'est lui qui te parle maintenant. Et c'est lui qui te conduira, qui te fera prospérer afin que tu fasses des grandes choses. Mais laisse Dieu à sa place, c'est-à-dire un Dieu adorable, un Dieu qui mérite que l'on lui donne le meilleur, un Dieu qui mérite que l'argent soit à ses pieds. Et lorsque le Seigneur dit que l'or et l'argent m'appartiennent, d'abord il nous parle à nous, c'est à nous qu'il parle. Dieu sait que l'or et l'argent qui est dans le monde, dans les forêts, au ciel, ça lui appartient. Mais à qui il dit ça? Il dit aux croyants, il dit ton argent m'appartient, ton or m'appartient. C'est à nous que Jésus parle. Jésus n'a pas de problème avec ce qui existe dans le monde, mais c'est à nous. Dieu veut te faire comprendre qu'écoute, si tu es à moi, ton or est à moi, ton argent est à moi. Et nous devons maintenant, en tant qu'église, en tant qu'association, nous voulons maintenant rentrer dans cette générosité. Comme la Bible nous dit, ceux qui n'avaient pas au temps des apôtres bénéficiaient de ceux qui avaient. Et comment cela s'est passé? Ce n'est pas chacun qui se levait pour aller donner à l'autre, non. C'était de l'argent qui a été mis en commun dans la maison du trésor et il y avait des moyens qu'il y avait des répartitions qui se faisaient afin que le peuple de Dieu soit épanoui, afin que ceux qui n'ont rien puissent obtenir, que ceux qui sont... Le Seigneur dit dans sa parole que les plus forts soutiennent les plus faibles. Il y aura toujours des plus faibles. Il y aura toujours, et j'espère qu'il va se lever au milieu de nous, des personnes qui sont des personnes fortes. Parce que sinon les faibles n'auront pas d'aide. Et à partir d'aujourd'hui, notre rapport à l'argent doit être démystifié. On n'a pas peur de parler d'argent. Parler d'argent, ce n'est pas ça qui va faire qu'un esprit ne viendra pas voler ton argent. Bien entendu, tu n'as pas besoin d'aller crier sur tous les toits, « Oh, j'ai tant en banque, j'ai tant en banque !» Mais tu n'as pas besoin de faire un mystère, parce que c'est par tout ça que le diable rentre. Jésus-Christ.